Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h50, on va revenir sur cette présidentielle avec les traits d'image d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen avec Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric, bienvenue.
Bonjour Cécile, bonjour
directeur
à tous.
Général de l'opinion IFOP et auteur de La Fracture aux éditions Les Arènes, et Françoise de Gouin, Elisabeth Lévy, vos appels 0826-300-300.
Oui, Frédéric Dabi, alors que donne cette nouvelle enquête?
Alors, ce sont des traits d'image comparés entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et l'intérêt, Patrick, c'est qu'on l'avait déjà posé cette question en 2017, et on voit très clairement que sur le match, sur l'incarnation, il y a un avantage net pour Marine Le Pen. En tout cas, les choses se sont beaucoup rééquilibrées par rapport à 2017. Certes, Emmanuel Macron arrive nettement en tête sur les items de stature. Il a la stature présidentielle. Il progresse bien sûr par rapport à 2017 parce qu'il est le sortant. Il est le plus capable de défendre les intérêts de la France à l'étranger et de mettre fin à la crise en Ukraine. Mais sur la question des enjeux, qu'est-ce qui va nous motiver à aller voter? C'est-à-dire la sécurité des Français, c'est-à-dire la question de la retraite, c'est-à-dire surtout le pouvoir d'achat. Il y a les Français qui sont plus nombreux à avoir confiance en Marine Le Pen, par exemple sur le pouvoir d'achat, qui a été notre premier déterminant du vote dans notre sondage soir du vote IFOP fiducial pour Sud Radio. 41% pour Marine Le Pen, 27% seulement pour Emmanuel Macron. Donc au-delà de ces sujets, stature, avantage Macron, les enjeux, avantage Le Pen, sur l'image, avantage également, clairement, Marine Le Pen. Elle est la plus capable de rassembler les Français, ils sont quasi à égalité, et surtout, elle connaît mieux, deux fois plus de citations, 44 contre 22, elle connaît mieux les préoccupations et la vie quotidienne des Français. Ça montre que ce second tour, beaucoup plus serré qu'en 2017, est une bataille d'incarnation, et contrairement à ce qui s'était passé en 2017, où l'incarnation de Le Pen s'était effondrée après ce débat d'entre-deux tours, là, on est sur un match beaucoup plus équilibré. Emmanuel Macron gagne sur les attributs de puissance, Marine Le Pen plus sur la proximité, la bienveillance et même la compétence sur certains enjeux, retraite.
Là où elle était,
en 2017, et là où elle était très faible par rapport à Emmanuel Macron. Mais c'était notre sondage jour du vote où la capacité à Marine Le Pen d'incarner la fonction a gagné 25 points par rapport à 2017. C'est un second tour serré, pas serré. Notre Rolling donne un avantage quand même assez net pour Emmanuel Macron, 53-47, mais c'est un second tour classique d'une élection présidentielle. C'est le rapport de force, Chirac-Jospin en 95, Ségolène Royal-Sarkozy en 2007. Mais il y a clairement une bataille d'image qui n'est pas, pour l'instant, pour le moment, au désavantage de Marine Le Pen. C'est dire si le débat de mercredi prochain va peser.
Oui, et ça, ça a beaucoup changé donc, par rapport à 2017. Et même par rapport quand il y avait eu... Vous avez fait quelques enquêtes aussi pendant la campagne sur les traits de caractère uns et des autres. Et je trouve que par rapport à ça, ça a beaucoup évolué là, avec cette nouvelle enquête aujourd'hui.
Vous avez raison. Moi, j'avais trouvé un adjectif qui avait fait un peu jaser. J'avais dit que l'image de Marine Le Pen s'était chiraquisée, puisque lui demande, les mots qui lui vont le mieux, c'est la sympathie, la sincérité. Sur la proximité aux préoccupations des Français, en 2017, elle était à 34%. Elle passe à 44% en 2022 et 8 points de plus par rapport à ce qu'on mesurait simplement au mois de mars. C'était quand même hier. On voit qu'elle joue cette carte proximité, la carte féminité, la carte de la proximité identificatoire. Je vous rassemble, je suis une femme qui est divorcée, qui a élevé ses enfants. C'était son moment un peu intime au meeting de Reims, si je ne me trompe pas, au début de campagne. Et très clairement, face à un Emmanuel Macron expert, compétent, mais qui apparaît lointain, distant, et qui est finalement et dans une logique de statu quo. Il incarne le statu quo, Marine Le Pen incarne plus le mouvement. Ce sont des mouvements, si je puis dire, qui sont plutôt préoccupants pour lui à quelques jours du second tour.
Alors, elle a acquis de la crédibilité, c'est ce que vous dites à travers ça. Elle faisait peur aussi auparavant à certains, puis avec toujours ce que brandissent ses adversaires, notamment extrême droite. Ça n'apparaît pas forcément.
Ça s'est beaucoup atténué. Par exemple, dans l'enquête du jour du vote, on a une majorité de Français qui considèrent qu'elle est attachée aux valeurs démocratiques. Quand on se souvient des baromètres célèbres de mes amis de la Sofresque, où chaque année, avec Le Monde, ils testaient est-ce que le FN est un danger pour la démocratie. On avait des scores de 3/4, de 80% à l'époque de Le Pen père. Là, est-ce que Marine Le Pen inquiète les Français? On était à 54% en 2017, on est à 45% en 2022, mais Emmanuel Macron inquiète en même temps 30% des Français. Avantage Macron, clairement, le sortant, la réassurance, la stature, mais là aussi, les choses se sont un peu rééquilibrées.
Oui, oui, non, mais c'est particulièrement intéressant cette étude. D'un mot, chacun 30 secondes, Elisabeth Lévy, Françoise Degoy, sur cette étude. Elisabeth ?
Non, alors l'étude, c'est très intéressant. On attend de voir si le débat va confirmer cette tendance ou pas. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez dit au début, c'est que si je comprends bien, en réalité, la plupart des gens votent plutôt en fonction ou seulement en fonction de leurs questions individuelles et pas du tout pour l'avenir du pays, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est un enjeu personnel.
On ne peut pas déduire ça.
Je ne sais pas si on peut déduire ça.
Vous avez dit que c'était le pouvoir d'achat.
Oui, alors, bien sûr.
Le pouvoir d'achat, c'est... Non, mais le pouvoir d'achat, je pense qu'Elisabeth, vous avez une vision un peu erronée des choses. Pouvoir d'achat, ce n'est pas forcément... Que pour soi, c'est que en fait c'est l'ensemble de l'économie en fait qui est vu en fait derrière quoi, du fonctionnement de l'économie hein, quand c'est le pouvoir d'achat. Évidemment, chacun regarde
l'item
c'est soi, mais il regarde en même temps l'économie quoi. Si le pouvoir d'achat baisse pour tous les Français, c'est qu'il y a un problème quoi, beaucoup plus collectif quoi, je pense.
Très sûr, moi.
Françoise. Est-ce que
l'individualisme a beaucoup progressé.
Ça veut dire que Marine Le Pen illustre vraiment l'adage de personne ne meurt jamais en politique. C'est inimaginable d'avoir des items comme ça après la séquence catastrophique de 2017. Ce que ça m'inspire, Frédéric, c'est que plus que jamais, le débat est crucial. C'est-à-dire que, est-ce que Marine Le Pen, le soir du débat, peut renverser cette table d'avance très naturelle ? On sait très bien quand on sort en tête d'un premier tour, on a évidemment une grande avance. Donc, est-ce qu'elle peut le renverser cette tendance ? Et le troisième point, est-ce qu'elle peut dire merci à Éric Zemmour véritablement dans la dernière semaine ? Elle peut lui faire une statue en réalité.
Alors, sur le merci à Éric Zemmour, oui, même avant la dernière semaine, puisque Éric Zemmour, par sa présence, par ses prises de position, a endossé la tunique du réprouvé, de la droite extrême, et il a recentré Marine Le Pen, qui d'ailleurs n'avait même plus besoin de parler massivement de ces deux sujets, immigration et sécurité. Dans notre sondage jour du vote, c'est la première fois depuis qu'il y a eu une Le Pen ou un Le Pen candidat à la présidentielle, que la première motivation de son électorat n'était pas l'immigration.
Parce que c'était le pouvoir d'achat.
Et sur la question, Françoise, du débat. C'est vrai que traditionnellement, jusqu'à 2017, un débat ne changeait rien. Il ne faisait qu'accentuer une tendance ou l'enraciner. 2017, c'est une véritable rupture. Avant et après le débat dans le Rolling, elle perd 2,5 points en une journée. Ça n'est absolument plus jamais arrivé. Là, elle ne peut pas faire pire qu'en 2017. Et je pense que ce débat peut être très important, et notamment pour peut-être resserrer l'écart et permettre à Marine Le Pen d'incarner cette vision du changement, même si... Il faut le dire, Emmanuel Macron est plutôt redoutable en débat. On se souvient de l'interview face à Edwige Plenel ou Jean-Jacques Bourdin, où c'était très dur pour lui, il avait réussi quand même à bien tenir la distance.
Allez, dans un instant, les débats. On va continuer avec vous, Elisabeth Lévy, Françoise Degoy et Éric Revel, qui sera avec nous également, pour revenir sur la conférence de presse sur l'international hier de Marine Le Pen.
Restez avec nous, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et la suite des grands débats dans quelques instants. Elisabeth Lévy, Françoise Degoy, Éric Revel qui sera avec nous dans quelques instants. Frédéric Dabi est toujours avec nous. En attendant, Revel en campagne.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et à 9h19, on fait dans un instant le retour des grands débats, toujours avec Éric Revel et décidément Elisabeth Lévy, Françoise Degoy et Frédéric Dabi. En attendant, on va offrir notre cadeau. Et c'est Adrien qui est avec nous en ligne de Olainville dans le 91, dans l'Essonne. Bonjour Adrien.
Oui, bonjour.
Comment ça va Adrien ?
Écoutez, ça va très bien. Il y a une bonne nouvelle qui vient de tomber.
Ah ouais, elle vient de tomber. On va la ramasser. Vous avez gagné. Vous avez gagné.
Attention, les joueuses, Cécile. Elle est très, très joueuse.
Très drôle et très drôle. Vous allez aller au parc Astérix avec des enfants, en tout cas en famille. Deux journées d'accès consécutives au parc Astérix. Une nuit d'hôtel pour une chambre familiale. Les petits déjeuners, les dîners pour quatre personnes. J'aurais pu le garder pour nous. Eh bien non, nous avons décidé de vous l'offrir, Adrien. Adrien, est-ce que vous nous écoutez depuis longtemps ?
Depuis peu.
C'est-à-dire, parce qu'il y a un moment donné, je ne vais pas pouvoir vous le donner. Dites-moi en combien.
Ça fait quelques mois.
Ça va, c'est gagné. C'est gagné, bravo. En tout cas,
merci.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Adrien?
Bah écoutez, je suis commercial dans le bâtiment.
D'accord. Pas trop de pénurie en ce moment, c'est pas trop compliqué?
Directement, non, mais oui, le marché est un peu compliqué, mais bon, ça va, il y a du boulot, on s'accroche.
Bon, bah tant mieux, tant mieux.
Il y a tellement de boulot que, oui, je crois qu'il y a même des retards parfois sur les chantiers, etc. Ouais. Alors, défaut d'approvisionnement, et puis...
D'ailleurs, il faut qu'on vous appelle hors antenne, on a deux, trois mots à vous dire. Ouais. Merci en tout cas, Adrien, de nous avoir appelé, et puis passez un bon séjour au Parc Astérix avec Sud Radio. À tout de suite.
Allez, beaucoup
et la suite des grands débats.
Beaucoup de choses, effectivement, dans l'actualité ce matin. Et Elisabeth Lévy, tout à l'heure, dans son édito, revenait sur le vote musulman chez les mélenchonistes, en fait. Hein. Frédéric Dabi, c'est vous qui avez fait cette enquête.
Oui, tout à fait.
Rappelez-nous ce chiffre.
Non, elle est tirée de l'enquête Jour du vote, où on a interrogé 4000 Français. Donc, 4000 Français permet d'avoir des possibilités d'analyse par grande catégorie, dont... l'appartenance religieuse, déclarée, hein, ce n'est pas un fichier, contrairement à des fantasmes que j'ai vus sur Internet, et sur 100 Français de confession de culture musulmane, 69% déclarent avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon dimanche 10.
C'est ça. Qu'est-ce que ça suscite chez vous, ce chiffre, Elisabeth Lévy?
Je l'ai un peu dit dans mon édito, c'est-à-dire que ce que je vois, c'est une structuration d'un vote identitaire, communautaire, parce que, d'ailleurs, même Le Monde le reconnaît, puisqu'ils ont fait des reportages dans les bureaux de vote, etc. D'abord, il y a eu énormément, si vous voulez, d'influenceurs, si on peut dire, des messages WhatsApp, ce fameux communiqué des prédicateurs et des imams qui a été repris par des personnalités très connues de
la communauté musulmane. Est-ce que c'est très légal, ça, d'ailleurs ? Normalement, c'est légal, ça, ou pas ?
C'est des messages, des boucles WhatsApp privées.
Je ne crois pas du tout ça qui m'inquiète.
Ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que le discours islamo-gauchiste de Jean-Luc Mélenchon, flattant la fibre victimaire, regardez comme les Français sont islamophobes et méchants, regardez, c'est-à-dire l'idée que toute critique de l'islam, toute inquiétude par rapport à certaines formes de l'islam serait du racisme ou de l'islamophobie, est entrée dans les têtes de beaucoup de musulmans, et ils ont voté d'abord comme musulmans. Et d'ailleurs, on voit bien, sais que Françoise va me dire que c'est un vote de gauche, je lui réponds
Françoise
par
et
avance.
Ensuite Éric Crevel,
Non, mais donc arrêtez de répondre à mes questions, c'est pas ce que je vais vous dire d'abord.
Je vais
vous rappeler que 40% des catholiques ont voté pour Marine Le Pen et Éric Zemmour. Je vais vous rappeler que Éric Zemmour, samedi, a adressé une lettre aux Juifs de France, ce qu'il n'a absolument pas le droit de faire, et je pense que Patrick Lugman a eu absolument raison. Donc, parler du vote communautaire, si on en parle, on en parle jusqu'au bout.
Comment vous sont énervé dès qu'on parle de ça?
Non, parce
vous voulez parler parce que votre Mélenchon est islamo-gauchiste. Dès qu'on parle de ça, vous êtes énervé.
Je suis énervée parce que c'est considéré qu'il y a 69% de gens qui vivent dans les cités qui sont musulmans et qui ont voté uniquement parce que quelqu'un leur aurait donné des garanties sur de l'islamisme radical. Ça vous vient même pas à l'esprit qu'il peut y avoir 69% de gens qui votent pour un type qui leur crache pas dessus matin, midi et soir. Qu'il n'y a pas d'histoire de communauté, il y a juste une histoire de respect.
Allez,
Elisabeth, c'est tout. Vous me hurlez dessus, je vous réponds. Il y a un vote. Il y a un vote communautaire des catholiques, alors, et il y a un vote communautaire également
c'est juste pas possible d'entendre n'importe quoi. C'est-à-dire que dès qu'on fait une critique.
Mais c'est pas un argument.
Personne ne leur crache dessus. Flatter la fibre victimaire de cette façon, c'est grave.
Ça suffit vraiment
d'entendre ces âneries, moi
non,
aussi.
Non, mais écoutez.
Chacun a ses arguments.
Moi, je ne crois pas du tout que c'est flatter la fibre. Je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui se considèrent agressés ou pas, et puis vous avez aussi des gens qui se déclarent musulmans et qui sont musulmans comme moi, je suis catholique, c'est-à-dire je vais à l'église chaque fois qu'il y a un enterrement ou un mariage, et eux ils vont à la mosquée pour les mêmes raisons, et ce sont des gens qui votent aussi en leur âme et conscience de gauche, ils ne sont pas simplement obsédés par le communautarisme. Mais si on va sur le communautarisme, 40% des électeurs de Marine Le Pen et des Zemmour, les catholiques ont voté pour eux, et je le redis, Éric Zemmour a envoyé une lettre aux Juifs de France, il n'avait pas à le faire. Ouais, voilà.
Bon,
je reprends la source de l'enquête, quand on dit catholique, on parle de plusieurs types de population. Ouais. Catholique, de manière générale, 29% ont voté Macron, 27% Marine Le Pen, 10% Éric Zemmour, 14% Jean-Luc Mélenchon fait mieux qu'Éric Zemmour chez les catholiques. Chez les catholiques pratiquants, et notamment des catholiques
Françoise Badaboum.
Les catholiques pratiquants réguliers. Avant, on les appelait les messalisants. Maintenant, c'est au moins aller une fois par mois à la messe. 19% Mélenchon, 25% Macron, 21% Le Pen, 16% Zemmour. Le total, Le Pen,
Badaboum, Éric Revel.
Puisque Mélenchon convainc plus de chrétiens que Zemmour. Françoise, arrêtez votre mauvaise foi.
19 et 16 dans ce mais que
c'est surtout
dire.
Françoise, est-ce que vraiment il y a le même problème du communautarisme catholique et du communautarisme musulman dans notre pays?
C'est le débat, c'est très bien que
Mélenchon récupère 69% du vote musulman, il n'y a rien de très surprenant, puisque une partie de sa campagne, c'est pour récupérer ce vote. Bon, donc il le récupère. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup plus, et là où je ne suis pas d'accord du tout avec Françoise, c'est que Mélenchon, il a une démarche, j'allais dire, proactive en direction des musulmans, puisqu'il les protège là où, d'après Françoise, les autres les embêteraient matin, midi et soir.
Non, les insultes,
pardon, Françoise. En revanche, d'abord, les chiffres vous montrent que votre raisonnement est faux, ce que vient de dire Frédéric, mais surtout,
j'ai pas entendu Zemmour et Le Pen.
Je connais votre technique, Françoise.
Donc respectez-les.
Ce que je voulais juste vous dire, Françoise, et puis après j'arrête, c'est que ni Le Pen, ni Macron, ni même Mélenchon, qui convainc 19% des catholiques, n'a eu des arguments en direction des catholiques. D'ailleurs, c'est très réparti, c'est ce que vient de dire Frédéric Dabi.
Le Pen et Zemmour égale 40% des catholiques pratiquants. Pourquoi vous dites que je raconte n'importe quoi?
Malheureusement, et c'est ça qui m'inquiète. Pour la démocratie française, c'est que maintenant vous avez des leaders politiques, peut-être qu'il y en aura d'autres, qui font des campagnes ultra ciblées et ultra communautarisées. Et là, on n'est plus dans la République.
Ça vient beaucoup des États-Unis.
On est en train de découper en tranches la République pour des questions religieuses ou pour des questions non politiques.
Quand Éric Zemmour se fait photographier avec Philippe de Villiers la veille, le jeudi précédent le premier tour.
Mais il fait 16% des catholiques, on vient de vous le dire, contre 19 pour Mélenchon.
Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Quand Éric Zemmour a
envoyé. Vous essayez de retomber sur vos pieds, mais là, vous avez des
orphelins.
Arrêtez, Éric! Je termine! Quand Éric Zemmour.
Mais attendez.
C'est moi qui me fais engueuler.
Moi, je vous coupe la parole à tous. À tous les trois, parce que là, vous êtes insupportables. Vous êtes pire que des enfants. Non, Françoise, c'est terminé. C'est terminé. Je vous coupe la parole, puisque tous les trois, vous ne vous laissez pas parler.
Je voudrais terminer.
Non, et donc, maintenant, je donne la parole aux auditeurs. 0826 300 300 aux auditeurs. Non, mais tous les trois, vous ne vous laissez pas parler. Vous ne vous laissez pas parler. Donc vous ne vous écoutez pas. Et le débat, c'est on s'écoute avant tout. Et on se laisse parler et on se respecte. À partir de là, maintenant, de toute manière, le temps est quasiment terminé, écoulé. Et puis c'est terminé. C'est moi l'arbitre et c'est moi qui vous distribue la parole. Hein. Donc c'est comme ça. Vous avez dit ce que vous avez à dire.
Allez, on y va. Frédéric de Paris, au 0826-300-300. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour. Bon, il faut calmer tout le monde. Hein. Oh, c'est pas facile. Alors, Frédéric, alors.
Oui. J'écoutais le débat, là, c'est chaud, et je vois qu'il y a pas mal de positions irréconciliables.
Mais je crois
que les Français aiment la politique, quoi qu'on en dise, et que c'est bien de débattre aussi comme ça, parce que démocratie et la liberté, c'est aussi de se dire les choses, quitte à se les jeter un petit peu à la figure, mais c'est pas gênant, ça fait partie du plaisir de débattre aussi. Hein.
C'est l'avantage de Sud Radio, tout le monde peut s'exprimer, après il faut se respecter.
Sud Radio, c'est un des rares endroits où on peut encore débattre comme ça,
et je
trouve que c'est excellent pour la démocratie, qu'il y en a bien besoin, parce que c'est quelque chose qui a de la valeur, qui vaut,
Et ne les relancez pas quand même. Hein.
Ouais. Des, non, ça y est, on est calmé, c'est bon.
Mais vous voyez, en parlant de démocratie, bon, on fait le constat que beaucoup de jeunes ne sont pas allés voter.
Ouais.
Mais c'est le constat habituel. Moi, je vote depuis qu'on a le droit de voter à 18 ans, des années 70. Mmh. On disait déjà la même chose quand j'avais 18 ans. Pourquoi les jeunes, vous n'allez pas voter? Bon, les jeunes ont beaucoup de préoccupations et ce n'est pas encore un sujet. Nécessairement les élections qui les attirent absolument, ouais. Parce que quand on a 18 ans, on a plein d'envie, on a plein d'idées, mais on n'a pas encore beaucoup de responsabilités, puis on n'a pas encore beaucoup le sentiment d'appartenir à grand-chose. Ça vient plus tard,
ouais,
ça vient en vieillissant, avec les enfants, avec le travail, on commence à se poser, et là on commence à aller voter. Est-ce que ce sont les jeunes ou les anciens qui vont faire la différence? Je ne sais pas, parce qu'il y a des anciens qui ne sont pas allés voter non plus. Le deuxième tour est différent du premier quand même. Hein. Le premier tour, on fait un choix, parfois par colère, parfois par opposition, parfois pour dire tiens, je vais aider lui parce qu'il a une bouille sympathique, il me plaît bien, parce qu'il raconte des bonnes histoires. Au deuxième tour, c'est différent.
Ouais.
Je pense qu'au deuxième tour, on est plus concentré, on saisit l'importance du moment. Et au deuxième tour, soit on choisit le candidat qu'on préfère, soit on vote contre l'autre.
Ouais.
Souvent on vote contre l'autre.
Ou alors, c'est le troisième cas aussi pour des jeunes qui choisissent aussi de continuer de s'abstenir dans ces conditions. Et même d'autres personnes qui peuvent s'abstenir, se dire finalement, ça... parce qu'avant on a quand même le choix, on a 12 candidats. Après, ça se résume à deux, uniquement un duel, et on peut très bien aussi. Et il y a beaucoup de gens qui sont hésitants là en ce moment, en se disant je vais peut-être m'abstenir, ou alors j'irai voter blanc, mais ça ne compte pas. On a eu beaucoup d'auditeurs dans ce sens hier. Merci en tout cas, Frédéric, d'être intervenu. Et c'est la transition toute trouvée, justement, avec le vote.
Jeunesse.
Oui, le vote de la jeunesse. Et je vous recommande au passage, d'ailleurs, le livre de Frédéric Dabi, Les Fractures.
Hein. La Fracture.
La Fracture, bien sûr. La Fracture, écrit avant la présidentielle.
Frédéric, il n'a pas pu dire un mot tellement s'engueuler.
Et je vais offrir un stage de yoga à Elisabeth Lévy, Françoise de Goye, et
Éric Rodin.
Excusez-moi, mais bon.
Bon, allez, ça y est, c'est reparti.
Allez, je vous aime. Salut.
Ils sont réconciliés. Ils vont se retrouver quand même à la machine à café.
On s'adore, bien sûr. Salut.
On donnera une tisane. Allez, tout de suite.